Mercredi 4 août, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes bien, vous êtes sur France Inter, le journal avec Kevin Dufraîche, bonjour.
Bonjour à tous. Beyrouth se souvient un an après la double explosion qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés. Jour de deuil national dans une capitale toujours profondément meurtrie, symbole d'un pays enfoncé dans la crise. La situation au Liban, trois invités pour en parler avec vous, Hélène, dans le grand entretien.
Oui, à 8h20, nous serons avec l'écrivaine libanaise Iyam Yared, le politologue Joseph Baout et le correspondant de France Inter à Beyrouth, Aurélien Colli. Vos questions, vos témoignages aussi peut-être. On vous attend au standard, chers auditeurs, 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
À la une également, la Guadeloupe se reconfine à partir de ce soir. De quoi saper le moral des locaux et gâcher les vacances des touristes. Le Covid qui inquiète de nouveau à l'hôpital Plan Blanc déclenché en Corse et en PACA. Les hôpitaux où le pass sanitaire devrait être bientôt obligatoire. Les médecins craignent de perdre le contact avec certains patients. Sans le dire, Paris veut éviter de voir les livreurs de repas monopoliser les Vélib. Les tarifs augmentent pour les vélos électriques. Et puis eux ne pédalent pas, ils grimpent. Les fans d'escalade ont suivi hier la grande première olympique de leur discipline à Tokyo.
France Inter.
C'était il y a un an, jour pour jour, une belle journée d'été à Beyrouth. Et à 18h08, heure locale, le chaos. Une déflagration puis une deuxième, celle que l'on vient d'entendre, bien plus puissante, le tout sur le port de la capitale libanaise. Un stock de nitrate d'ammonium vient d'exploser, une partie de la ville est rayée de la carte. Bilan, 218 morts, 6500 blessés et 350 000 habitants qui voient leur logement tout ou partie détruit. Les images font rapidement le tour du monde. Bonjour Laure Stéphan.
Bonjour.
À Beyrouth pour France Inter. Laure, ce mercredi est donc un jour de deuil national au Liban et c'est une capitale toujours meurtrie qui s'apprête à se souvenir de la catastrophe.
Oui, une ville où les cicatrices du 4 août 2020 sautent aux yeux dans les quartiers qui avaient été les plus touchés. Cicatrices physiques d'abord, on y vit toujours au rythme et à la vue des travaux, des échafaudages. De nombreux habitants ne sont pas revenus s'y installer. Cicatrices émotionnelles aussi, beaucoup de ceux qui ont vécu l'explosion le disent, ils sursautent quand une porte claque. La vie n'a pas repris comme avant. Je vous propose d'écouter Karine Wahbé, une artiste dont l'atelier avait été détruit dans la déflagration. Elle habite Gemaizé, près du port.
Jusqu'à maintenant, ça m'est difficile de retrouver le sentiment complètement de sécurité. J'ai quand même du mal à retrouver ces sensations d'avant, en fait. Je suis toujours un peu sur le qui-vive. Je suis pas très rassurée parce que, en fait, l'explosion, pour moi, a mis le point sur une vacance totale étatique, en fait. Donc, en fait, tout est possible. Donc j'attends quelque chose pour les victimes, un événement, quelque chose en fait. Il faut complètement une parole officielle. C'est la seule manière peut-être aussi que les gens puissent commencer à faire leur deuil.
Une parole officielle attendue, mais pourtant Laure, il n'y a pas de cérémonie organisée par les autorités. Y a-t-il quand même des commémorations aujourd'hui ?
Écoutez, deux moments forts attendus, une célébration interreligieuse, elle aura lieu en fin d'après-midi au port et doit être marquée par une minute de silence, une minute de recueillement à laquelle s'associeront d'autres Libanais à proximité. Plusieurs cortèges de manifestations à l'appel de familles de victimes, d'acteurs de la société civile ou de groupes politiques doivent converger. Et après, c'est au Parlement que comptent se rendre des manifestants pour réclamer des comptes.
Et cette demande de justice, merci Laure Stéphan, les Libanais la font à leurs dirigeants. Incapables de s'entendre depuis un an, le Liban n'a toujours pas de gouvernement. C'est la mission de Najib Mikati, nommé il y a quelques jours après la démission du Premier ministre Saad Hariri. Un précieux temps perdu alors que l'urgence humanitaire est là. Fouad Abou Nader est président de l'ONG libanaise Noraj, qui vient en aide aux victimes de Beyrouth. Il espère une solution politique au plus vite, il l'a dit à Christian Chesneau.
Le problème essentiel du Liban, c'est le conflit pour le pouvoir entre les différentes communautés. Ce qui fait que ces communautés sont en train de s'auto-neutraliser. Ils arrivent à la réunion du gouvernement, un dit oui, un dit non, le projet s'arrête et c'est fini. Donc il faut absolument sortir de cette centralisation idiote qui est en train de ruiner le Liban. Je suis très optimiste. Parce que quand vous voyez les jeunes au Liban, comment ils ont agi après le 4 août, comment ils sont descendus tout seuls sans que personne ne le dise pour ramasser les gravats, pour aider les gens sur le terrain, comment ils se sont fait la compétition qui va aider plus, ça c'est extraordinaire. Cet élan de solidarité a été extraordinaire, ce qui démontre que la jeunesse est très consciente de ce qu'il faut faire et elle est en train d'agir.
Comment faire partir cette classe politique sclérosée, corrompue ?
mai prochain, nous avons les élections. Il faut que les Libanais aillent voter. Il ne faut pas qu'ils restent chez eux à la maison. Il faut qu'on vote pour les faire tomber.
Et une conférence internationale de soutien à la population libanaise a lieu aujourd'hui sous l'égide des Nations Unies et de la France. Une quarantaine d'États participent. Objectif récolté environ 350 millions de dollars d'aide supplémentaire. Tous ces sujets, Hélène, vous les évoquerez avec vos invités dans le grand entretien dans un quart d'heure. Toujours à l'étranger, l'incident à bord d'un navire en mer d'Oman est terminé, annonce à l'instant de l'Agence de sécurité maritime britannique. Les personnes qui étaient montées à bord ont quitté le navire qui est en sécurité, précise-t-elle. Un incident considéré comme un potentiel détournement 5 jours après l'attaque d'un pétrolier par un drone. Là aussi, c'était en mer d'Oman.
Un nouveau territoire français se reconfine ce soir.
La Guadeloupe, déplacement interdit sans dérogation au-delà de 10 km. Bar fermé, restaurant ouvert le midi uniquement et couvre-feu entre 20h et 5h du matin. Seule solution pour casser l'épidémie de Covid qui s'emballe, disait hier le préfet de l'archipel. Des restrictions face auxquelles les Guadeloupéens comme les touristes font grise mine, comme l'a constaté Boris Loumagne à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.
Ce n'est pas comme ça qu'ils imaginaient leurs vacances. Stéphane et Monique, eux qui arrivent de Grenoble, ils sont tous les deux vaccinés, mais comme les autres, ils seront soumis au confinement ici en Guadeloupe, avec notamment l'interdiction de dépasser un périmètre de 10 km autour de leur hôtel.
On ne pourra pas aller sur les îles, on voulait aller sur à Marie-Galante, etc. Donc bon, ça c'est raté.
On n'a pas le choix, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est vraiment dommage d'en venir à ces mesures, quoi, puisque malgré les vaccinations, quoi, c'est ça.
Déception également pour les Guadeloupéens qui sont nombreux à cette période de l'année à accueillir leurs proches venus de métropole. Laurence, un peu dépitée, sa sœur, venue passer quelques jours chez elle, va repartir plus tôt que prévu dans l'Hexagone.
Elle est arrivée il y a une bonne semaine, elle devait repartir jeudi prochain, le 12, et du coup, après étant bloquée, ne pouvant pas bouger, ils ont vu avec Air France et ils repartent 4 jours plus tôt. Pas le choix. On va dire qu'on s'y attendait vu le nombre de cas qui étaient en flèche, qui montaient ces derniers jours. Maintenant, on ne pensait pas que ça serait arrivé aussi vite.
Oui, mais il faut dire que la situation est critique ici, d'autant qu'à peine 21% de la population guadeloupéenne a reçu au moins une dose de vaccin, contre 63% au niveau national.
Boris Loumagne, en Guadeloupe où des transferts de patients vers la métropole sont envisagés pour soulager les hôpitaux qui surchauffent et s'organisent aussi dans le sud de l'Hexagone. Après la Corse, hier, le plan blanc est déclenché ce matin en PACA pour ouvrir plus de lits et pouvoir rappeler du personnel en vacances. Notamment, au niveau national, les hospitalisations continuent d'augmenter. Plus de 800 patients Covid admis hier, un chiffre au plus haut depuis fin mai. En revanche, peut-être un signe d'amélioration de la situation. Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid semble stagner ces derniers jours en restant autour de 20 000. L'hôpital où le pass sanitaire sera bientôt obligatoire, sauf en cas d'urgence, si le Conseil constitutionnel valide la mesure demain. Hier, le Conseil national de l'Ordre des médecins appelait à ce que ça ne soit pas mis en place, craignant des difficultés d'accès aux soins pour certains patients. Une crainte partagée par les médecins hospitaliers. Alice Cachet.
C'est bien la notion d'urgence qui pose un problème de déontologie au docteur Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital Bichat à Paris.
C'est très difficile de définir ce que c'est qu'une urgence médicale. Moi, dans ma pratique de cardiologue, je vois des patients parfois toutes les semaines pour leur augmenter très rapidement leurs médicaments. Si ces patients-là se présentent sans passe sanitaire à l'hôpital et qu'ils sont refusés ou recalés, ça va poser des vrais problèmes pour leur pronostic et leur prise en charge.
Dans la Sarthe, le docteur Jean-Marc Toquet, chef du service médecine polyvalente de l'hôpital du Mans, craint que le pass sanitaire n'exclue un peu plus des malades éloignés du système de santé.
Moi, je fais partie d'un département où on souffre d'une désertification. Donc, on va refuser des patients qui sont déjà laissés à l'abandon. Ça me fait très peur. Je ne sais pas ce qu'on fera de ces gens-là qui sont oubliés dans leur campagne, qui ne peuvent pas se déplacer. C'est souvent les plus lourds, les plus handicapés, les plus en difficulté avec les moyens de communication. Donc déjà, ils n'ont pas eu obligatoirement accès à la vaccination facilement ou pas du tout. Et donc, ça va être la double peine. Ils vivent dans des zones sinistrées et puis ils ne pourront peut-être pas venir jusqu'à l'hôpital.
Autre effet pervers redouté par les médecins, que les patients non vaccinés engorgent les services d'urgence pour contourner le pass sanitaire.
Alice Cachaner.
À Paris, ça coûte désormais plus cher d'utiliser un Vélib électrique.
1 euro de plus par demi-heure à partir du 3e trajet quotidien avec ces vélos partagés. changer. Officiellement, il s'agit, je cite, de rééquilibrer les usages. C'est ce que dit le syndicat Vélib Métropole. Mais en réalité, la mesure semble viser les livreurs de repas à domicile des plateformes type Deliveroo et Uber Eats qui, pour certains, préfèrent utiliser les Vélib électriques plutôt que d'acheter leur propre machine. Marianne Naquet.
Livreur chez Deliveroo depuis un an et demi, John utilise le Vélib électrique plusieurs fois par jour. Il garde le même toute la journée, quitte à payer des pénalités.
Nous, on dépasse tout le temps parce que quand vous avez un bon vélo, vous ne pouvez pas le déposer. Parce que quand vous le déposez, vous n'êtes pas sûr de retrouver un autre vélo qui fonctionne. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous dépassez.
Le jeune homme fait le calcul, la hausse lui coûtera 600 euros par mois. Alors pour John, comme pour n'importe quel livreur, la solution, ça va être de se tourner vers un vélo mécanique, explique Jérôme Pimaud, du collectif des livreurs autonomes de plateforme.
Il va plus galérer. On va faire peser, encore une fois, le poids du danger, de la précarité, de la pénibilité sur des gens dont on sait qu'ils ont déjà des métiers difficiles, quoi.
Du côté du syndicat Vélib Métropole qui pilote le service de vélo, on assure ne pas cibler exclusivement les livreurs. Sylvain Réfaux, son président.
Ce qui est visé, c'est les 1% d'utilisateurs de l'offre qui font 10% des courses et qui, de ce fait, pèsent énormément sur les vélos électriques.
L'élu veut éviter cet usage intensif. Il ne ferme toutefois pas la porte à la discussion avec les livreurs et les plateformes pour trouver une solution.
Marianne Naquet. Cette semaine, sur France Inter, on fait le point sur les promesses de campagne des présidents de région réélus il y a un peu plus d'un mois. Ce matin, place à la région Nouvelle-Aquitaine où le président socialiste Alain Rousset est aux manettes depuis 1998. Et en avril dernier, il annonçait briguer un cinquième mandat. C'était sur France 3.
Ce serait le mandat de trop si j'avais perdu la passion, l'amour du métier, et puis s'il n'y avait pas autant de chantiers à faire. Vous imaginez une école vétérinaire à 5e de France, refaire le réseau ferroviaire, continuer notre stratégie d'innovation qui a fait de nous d'ailleurs, de l'Aquitaine puis de la Nouvelle-Aquitaine, la région la plus attractive de France.
Alain Rousset a donc fait campagne en promettant un nouveau souffle. Alors est-il vraiment reparti au combat, Claire Flochel?
Pour y répondre, il suffit de regarder la dernière séance plénière de Nouvelle-Aquitaine le 19 juillet. À l'ordre du jour, 12 dossiers, que de l'administratif. Avant sa réélection, Alain Rousset mettait en avant son choix de prioriser l'emploi et l'économie, sans oublier la transition écologique. Mais pour l'instant, rien de concret. Les vacances sont arrivées, le nouveau souffle, lui, pas encore. Dans son entourage, on se justifie. 58% des élus du Conseil régional ont été renouvelés. Il faut donc les accompagner. Et puis l'urgence, c'est le Covid. Son impact sur la filière touristique, très important dans la région, et sur la prochaine rentrée scolaire. Voilà ce qui préoccupe Alain Rousset, qui n'est pas dans les promesses, ajoute-t-on. S'il va au terme de son mandat en mars 2028, Alain Rousset aura piloté l'Aquitaine, puis la Nouvelle-Aquitaine pendant 30 ans. À 70 ans, dans une interview à Sud-Ouest, le doyen des patrons de région dit déjà penser à sa succession.
Claire Flochel, et demain, on poursuit ce tour de France des régions avec les Hauts-de-France, présidé par Xavier Bertrand.
Les JO de Tokyo, Kevin Mayer souffre, mais espère encore.
Le décathlonien français qui rêve d'or n'est que quatrième après trois épreuves diminuées par une blessure au dos. Il va malgré tout s'accrocher. Assure-t-il, il a rendez-vous avec le saut en hauteur à 11h30. Une des grandes nouveautés de ces Jeux Olympiques, c'est l'entrée officielle de l'escalade au programme. Ça a commencé hier. Le français Michael Mauem s'est d'ailleurs qualifié pour la finale qui aura lieu demain. Son frère Bassa a déclaré forfait victime d'une blessure au biceps. Et les fans de la discipline ont suivi cette grande première, parfois réunis comme ici dans la salle Arcos Nation à Paris. Mathilde Dehimi.
Certains sont encore accrochés au mur, d'autres ne quittent pas des yeux la télé.
Très très bien placé, très bien parti.
Le français Michael Mauem se qualifie pour la finale.
Et il a topé, c'est génial.
Arnaud a rythmé sa journée en fonction des Jeux Olympiques.
Je suis venu tôt le matin pour grimper un petit peu, avant justement le début de l'épreuve.
L'escalade s'ouvre au grand public, un espoir d'être mieux compris, sourit Arnaud.
C'est vrai que dans mon groupe d'amis par exemple, je suis un des seuls à en faire, donc ça attise un peu les railleries par moment, parce que j'en fais beaucoup et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre un peu ce milieu-là. Donc maintenant qu'il y a ça au JO, ça va peut-être permettre une meilleure compréhension justement pour le grand public.
En cas de médaille, avec Paris 2024 à l'horizon, Maxime Jublot, le directeur de la salle, se prépare à une belle rencontre. rentrée.
Ça va permettre d'ouvrir plus de salles, de pouvoir faire connaître cette discipline. Et puis, comme font les Jeux à chaque fois, hein, ça va augmenter le nombre de licenciés, donc potentiellement trouver de nouvelles pépites qui nous représenteront à Paris, ça serait beau quand même.
Dans la salle à côté, Thelma lâche prise et retombe sur le tapis.
Une verte que j'ai pas réussi, mais c'est très haut et ça fait très peur et il faut se faire confiance.
Pour sa copine Johanna, c'est une première.
J'ai entendu beaucoup de gens qui se connaissaient pas encourager les autres, etc. sur les prises, c'est super chouette. Et en plus, c'est très fun et mine de rien, on se muscle beaucoup sans même s'en rendre compte. Et je pense que demain, j'aurai des courbatures.
Des novices qui peuvent côtoyer les frères olympiens Mawem qui s'entraînent ici lorsqu'ils sont de passage à Paris.
Mathilde Dehimi, enfin mercredi, c'est sorti au cinéma avec entre autres le retour du plus insupportable des espions, OSS 117. Dans un tout autre style, le nouveau long métrage de Tony Gatliff, immersion en Camargue sauvage, dans le sillage d'un garçon en quête de rédemption, Alexis de Meyer.
Tom Medina est un jeune homme instable, clown exubérant qui devient mutique quand il est question de son passé. Cet écorché vif débarque en Camargue, placé en liberté surveillée dans une famille d'accueil. C'est le Belge David Mourgia qui campe le rôle-titre.
Oh, qu'est-ce que tu fous en Camargue ?
Je trie les taureaux, j'apprends à devenir gardien. Dès que j'ai mes papiers, je me barre en Espagne.
L'homme qui s'occupe de Tom Medina s'appelle Ulysse. Il va lui apprendre le respect, la patience, mais aussi le provençal, la langue des troubadours.
Aïgarda tous les jours, un apparent lui souco. C'est Oulas, la nègre néo. D'aval sous la main.
On pense parfois à Ken Loach ou aux frères Dardenne. Tony Gatliff prend aussi le temps de filmer avec amour la Camargue et ses taureaux, ses flamants roses et ses hommes déracinés.
Tom Medina de Tony Gatliff, c'est en salle dès ce matin.
Et c'était le journal de Kevin Dufraîche. La météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Stéphanie Fromentin, une perturbation apporte de la pluie au sud pour une fois.
Et de la pluie et même des averses. Cette perturbation s'est engouffrée dans la nuit par le golfe de Gascogne pour atteindre le sud-ouest. Elle a rapidement gagné l'Occitanie puis la vallée du Rhône dès ce matin. Plus au nord, le ciel est certes nuageux mais le temps reste sec. Des Hauts-de-France au Grand Est en passant par l'Île-de-France. Et puis dans l'après-midi, la pluie se maintient sur le sud-est, parfois accompagnée d'orages. Les averses s'égrènent des Pyrénées au Massif central sous un ciel bien chargé. Elles sont plus éparses en se dirigeant vers l'Atlantique, tandis qu'au nord de la Seine, le ciel reste plus variable et que sur l'île de Beauté, eh ben, c'est préservé avec des conditions toujours estivales malgré un ciel passagèrement nuageux. Les cumuls de pluie pourraient atteindre 10-20 mm sur les plaines du sud-ouest, 20 à 40 mm sur le sud du massif central, comme sous les orages du sud-ouest.
Sud-est. Les températures sont toujours fraîches pour la saison, Stéphanie.
Exception faite sur l'île de Beauté où elle flirte avec les 30 degrés. Partout ailleurs, vous pourrez compter sur 19 à 23 degrés. 19 à Cherbourg et Aurillac, 23 à Cognac.
C'est pas la peine de venir si c'est pour nous annoncer l'automne en plein été. Franchement, Stéphanie. Mais vous reviendrez quand même. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
8h17 géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere.
Huawei, Duba.
Wahdahoum, Souria. Sur France Inter.
Avec vous Anthony Bélanger, bonjour.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
Hier, un dissident politique biélorusse a été retrouvé mort en Ukraine.
Oui, il s'appelait Vitali Chichov, il avait disparu depuis 24 heures. Il a été retrouvé pendu dans un parc de Kiev, la capitale ukrainienne, où il était installé depuis quelques mois et d'où il dirigeait la maison biélorusse en Ukraine, un groupe de dissidents au régime biélorusse, donc de Loukachenko. On va écarter tout de suite l'hypothèse d'un suicide. Monsieur Chichov était jeune, en couple. Il avait disparu la veille alors qu'il sortait pour son footing quotidien, mais surtout, selon les premiers éléments de l'enquête, son visage était tuméfié. En clair, il a été battu avant d'être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais surtout, ce n'est pas la première fois que les services secrets biélorusses utilisent cette méthode barbare et cette mise en scène pour se débarrasser de dissidents trop entreprenants. En 2010, le fondateur du groupe de dissidents Charter 97, Oleg Bebenin, avait lui aussi été trouvé pendu dans sa maison secondaire des environs de Minsk, la capitale biélorusse. Autrement dit, ce n'est pas seulement une habitude, c'est une signature.
Sauf que cette fois-ci, Anthony, c'est différent, ça s'est passé à l'étranger, en Ukraine.
Oui, j'allais vous dire que ça aussi, c'est devenu une signature. Voilà tout de même un régime qui, souvenez-vous, était capable en mai dernier de détourner un avion de ligne pour récupérer le jeune dissident Roman Protasevich et sa compagne. De la même façon, il y a quelques jours à peine, l'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya a failli être rapatriée de force pour avoir osé critiquer les officiels de son équipe olympique. Elle est aujourd'hui en sécurité à l'ambassade polonaise du Japon. Depuis les manifestations manifestation d'août 2020 contre la réélection d'Alexander Loukachenko, ce sont quelques 14 000 Biélorusses qui ont été contraints à l'exil, essentiellement dans les pays voisins, Pologne, Ukraine et Lituanie, souvent des jeunes qu'il faut vite effrayer.
Comment ça, effrayer ?
Eh bien, il s'agit pour Minsk de faire face à une nouvelle génération de dissidents, jeunes donc, connectés et souvent bien formés. Le premier réflexe d'un régime dictatorial est donc de les réprimer en interne. Pour la Biélorussie, c'est désormais chose faite. Des milliers de manifestants d'août 2020 ont été arrêtés, incarcérés, torturés, leurs familles inquiétées. Depuis mai, les lois du pays permettent même aux forces de l'ordre de tirer à vue sur des opposants et les amnistient par avance de toute poursuite. Restent ceux qui reconstituent à l'étranger des réseaux de résistance. C'était le cas de Vitali Chichov et de sa maison de la Biélorussie en Ukraine. Cela, il faut les faire taire avec le message suivant. Où et quand nous le voulons. C'est d'ailleurs un classique.
D'autres pays utilisent ces mêmes méthodes.
Oui, souvenez-vous de l'affaire Skripal, de cet ancien espion russe que les services secrets russes sont allés empoisonner à Salisbury, en Grande-Bretagne, ou de l'Arabie Saoudite qui a fait assassiner le journaliste Khashoggi à Istanbul. La Chine, elle, enlève plutôt. En clair, toutes les dictatures se regardent, se copient dans une sorte d'émulation sordide. Qui sera le plus cruel ou organisera l'opération hors de ses frontières la plus osée? La Biélorussie est juste en train d'écraser la concurrence.
Géopolitique signé Anthony Bélanger. À demain, Anthony. Dans un instant, le grand entretien. Trois invités pour nous parler du chaos libanais. Restez avec nous sur France Inter.